Soyez les bienvenus à cette première séance de la seconde moitié de la saison 2025-2026. Après les jours de stupeur et d'horreur que nous venons de vivre et la journée de deuil du 9 janvier, nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour vivre la raison d'être de Connaissance 3, découvrir, rencontrer, écouter des femmes et des hommes qui, en nous faisant partager leur engagement, leur recherche et leur passion, nous permettent de mieux comprendre le monde et ses défis. Aujourd'hui, nous recevons deux, j'ose dire, jeunes artistes, Lou Masduro, qui est plasticienne, et Bruno Pellegrino, à l'occasion d'un livre qui a paru l'été dernier aux éditions Art et Fiction sur un travail de Lou intitulé « Bouche, récit de découverte » écrit par Bruno Pellegrino. Alors, comme vous avez compris la mise en scène, la séance va se dérouler sous forme de conversation. Je vais les rejoindre pour ce petit moment d'échange. Je vous préviens déjà, vous allez être étonnés peut-être, de m'entendre passer du « tu » au « vous ». Je connais Bruno depuis très longtemps, donc le « tu » s'imposait. J'ai fait la connaissance de Lou il y a 20 minutes, donc je suis esclave de mon éducation du XXe siècle. Ils ont accepté. Lou Masduro est née à Montpellier, où elle a étudié ensuite à l'École nationale des beaux-arts de Lyon et à la HED à Genève. Elle est donnée comme plasticienne. Moi, j'avais cru au début que c'était sculptrice, et puis j'imaginais déjà le ciseau, le marteau, le bloc. Or, il y a moult autres choses qu'elle fait, et ces bouches dont elle va nous parler aujourd'hui. Elle a participé à de très nombreuses expositions personnelle et collective, et elle a obtenu de nombreuses résidences ainsi que des prix, dont le prix Manor culturel en 2022, je crois.
2023.
En 2022, elle a obtenu une résidence à l'Institut suisse de Rome, avec, dans le fond, comme projet de recherche, si j'ai bien compris, et c'est ça que vous allez développer, les fontaines publiques. Et ce travail sur les fontaines a à son tour inspiré le livre de Bruno, puisqu'ils se sont rencontrés là-bas. C'est ce qu'ils vont nous expliquer tout à l'heure. Bruno Pellegrino, qui est déjà venu ici il y a quelques années, je n'ai pas réussi à retrouver la date, mais c'était avec le groupe des jeunes auteurs Ajar, cette collectivité d'écrivains qui écrivent à plusieurs mains, comme ils aiment le dire. Bruno est un produit local, comme on aime à dire aujourd'hui. Après des études à Lausanne, il a remporté très jeune un prix en 2011, le prix du jeune écrivain, pour une nouvelle. Et puis, c'est surtout son livre « Là-bas, en août, est un mois d'automne » qu'il a obtenu en 2018 une série de prix et qui, dans le fond, l'ont propulsé au-devant de la scène. Et ce livre, donc, qui raconte de manière fictive les dernières années de Gustave Roux, certains aspects des dernières années de Gustave Roux, a été écrit en parallèle, ça tu le préciseras, avec 4 ans de recherche auxquels tu as participé pour la publication des œuvres complètes de Gustave Roux. Et étant donné ce séjour commun à Rome, leur rencontre fait l'objet des bouches. Hein. Et alors là, maintenant, Lou va nous montrer à quel point ce mot est, pour elle, polysémique. Il y a toutes sortes de bouches. Hein. Nous, on pense à celle qui nous permet de parler maintenant, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pour commencer, j'aimerais quand même peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est l'Institut suisse de Rome. Alors, Bruno, peut-être.
Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Donc l'Institut suisse de Rome, c'est ça, entre autres. C'est cette splendide villa sur une colline de Rome qui accueille depuis je ne sais même pas combien de décennies, très longtemps, des artistes, chercheurs, chercheuses et quelques écrivains en résidence. Le principe a changé au fil des années, mais en tout cas, quand Lou et moi avons postulé, il y avait moitié-moitié. Donc six chercheurs qui faisaient des thèses, en gros, ou des post-docs en archéologie, en histoire, en littérature latine, enfin voilà, quelque chose en lien avec la ville de Rome. Et puis six artistes et ou écrivains qui, eux aussi, elles aussi, avaient besoin, pour une raison ou une autre, d'être à Rome. Alors ce besoin, il est quand même à géométrie variable. Moi, j'ai rarement besoin d'être à Rome, j'ai souvent envie, mais c'est un autre problème. Et donc, pour être accepté dans ces six places, il a fallu faire tout un dossier, comme pour la plupart des résidences ou des bourses. Ça se présente quand même assez différemment pour quelqu'un qui écrit comme moi ou quelqu'un comme Lou qui a une pratique de plasticienne. Donc peut-être que tu peux parler un peu de ce que tu as présenté et comment tu as été accepté.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là et merci de l'invitation. Donc effectivement, l'Institut suisse de Rome, c'est donc une résidence où on habite aussi. Ce qui est important, je pense, de préciser, c'est la particularité de cette résidence, c'est que c'est des appartements qui sont quasiment collectifs, donc on habite dans cette grande villa, il y a des petites dépendances, etc. Il y a le dernier étage qui est dévolu aux résidentes et aux résidents pour y vivre une année. Donc c'est aussi vraiment une aventure humaine, en plus de la recherche que nous faisons chacune, chacun sur son propre travail, mais il y a aussi vraiment, on habite avec 12 autres personnes qu'on n'a pas choisies aussi, par exemple, et qui ont tous des profils différents, et c'est aussi ça qui fait la richesse de l'expérience. En tout cas, pour y rentrer, en tant que plasticien, plasticienne, nous, on doit proposer un projet de recherche qui est en lien avec la ville de Rome, ce qui est, somme toute, assez facile pour quelqu'un qui pratique l'art, parce qu'il y a une telle histoire à Rome, et toute l'histoire de l'art avec un grand H est écrite aussi un peu depuis ce centre névralgique de Rome, et ce qui est aussi totalement remis en question aujourd'hui, etc., c'est d'autres questions, mais en tout cas, du coup, il y a beaucoup de pratiques qui peuvent trouver des liens avec toutes les pratiques qui ont traversé Rome depuis le voilà. Donc moi, pardon, j'en viens au fait. Moi, je travaillais déjà sur les fontaines, donc en tant qu'objet public, au centre de nos places publiques, depuis 2019. Et j'avais très envie d'aller à l'Institut suisse, avant même de me dire, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, à Rome, justement, c'est vraiment la ville des fontaines. Et du coup, le lien s'est fait très facilement pour moi, pour le coup, où je me suis dit, ben voilà, il faut que j'aille voir ces fontaines déjà, déambuler dans cette ville, voir vraiment toutes ces fontaines et enquêter un petit peu plus sur déjà pourquoi il y en a autant, quels sont leurs différents styles, quelle est leur histoire. Moi, ce qui m'intéressait dans la fontaine, c'était un peu un a priori aussi du fait que c'est un objet politique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce type de sculpture-là, ce type d'objet culturel, une fontaine, au centre de nos places publiques de façon très régulière dans toute l'Europe, principalement. Et du coup, je me suis dit que d'aller à Rome, c'était un bon moyen d'en savoir plus. Donc voilà, c'était un peu mes premières intentions, comme ça, de rapprocher, d'essayer de comprendre comment, en quoi cet objet était politique, quelles étaient les idéologies qui pouvaient être portées par ces objets. Mais aussi tout l'aspect social, pourquoi les gens s'y retrouvent, pourquoi on continue d'avoir des fontaines et de fabriquer des fontaines aujourd'hui. Parce que quand je parle d'objets politiques, c'est bien parce que à la base, là où il y avait de l'eau potable, on apportait de l'eau potable au centre de la ville pour que la vie publique puisse se développer. C'est-à-dire à la fois avoir de l'eau potable, mais aussi laver son linge, voilà toute la question de l'hygiène. Et donc là où il y avait de l'eau potable, pouvait se développer la vie humaine et les villes comme ça autour des sources. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Nos infrastructures modernes ont changé notre rapport aux fontaines. Et pourtant, aujourd'hui encore, chaque année, on continue de produire des fontaines. Et je me demandais pourquoi. Voilà. C'est un peu avec ces intentions que je suis arrivée à Rome.
Mais vous aviez aussi lu beaucoup de livres autour de l'eau et des fontaines, et notamment des auteurs anciens où la notion de peut-être plus de source que d'eau semble vous avoir inspiré certaines choses. Est-ce que vous pouvez juste développer peut-être un petit peu cet aspect-là ?
Bien sûr. Ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup surpris. Moi, je n'avais pas étudié la littérature latine. Je ne connaissais pas tellement cette partie-là de la culture. Et c'est en arrivant là-bas, justement, que je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit... effectivement que j'allais lire notamment Sénèque avec les histoires naturelles et Frontin qui parle de l'architecture avec le traité numéro 4 qui parle justement de l'eau et j'étais très surprise de découvrir à quel point le rapport à l'eau à l'époque était empli d'histoires absolument somptueuses, de croyances en fait sur ce qu'apporte l'eau, qui est à la fois le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort, qui est développé surtout par Sénèque, donc et où il dit que en fait eux ils avaient une connaissance aussi qui était vraiment basée sur l'expérience, hein, donc si je bois telle eau de telle source, et ben peut-être que ou mon chien s'abreuve à telle source et il en meurt. Et aujourd'hui, on a les explications pour expliquer pourquoi, mais à l'époque, on ne les avait pas. Et donc, telle ou telle source, selon qu'elles étaient, par exemple, sulfureuses, trop de sulfure dans l'eau faisait que ça donnait la mort. D'autres eaux qui, au contraire, contenaient suffisamment de minéraux ou qui étaient saines, permettaient de survivre et de vivre, tout simplement. Donc, c'était ce grand pouvoir qu'avait l'eau et qui prenait forme dans des... à travers des figures, notamment la figure des nymphes, qui étaient des êtres à l'apparence humaine, mais qui en fait vivaient, étaient la source même, et qui pouvaient être des nymphes, par exemple, pétrifiantes, et qui est un des aspects que j'ai développé dans mes fontaines, qui transforme l'eau en pierre, donc le phénomène de pétrification, qui est un phénomène... géologique en fait, très simple, hein, du calcaire qui est contenu dans l'eau, qui se dépose sur les corps organiques et qui le recouvre d'une fine couche de calcaire, qui fait que ça le... Sénèque parle de l'eau qui cimente les corps, ce qui est assez beau, et si on plonge effectivement un objet quelconque dans une source calcaire assez longtemps, il va se transformer en pierre en fait. C'est ça la pétrification, donc c'est l'une des croyances que j'ai découvert à travers Sénèque sur l'eau.
Alors, Bruno, toi, ton projet littéraire, explique-nous peut-être quel il était comment tu l'as développé.
Je dois bien avouer, toujours avec une certaine gêne, que, en fait, moi, pour le coup, c'était bien moins évident de pourquoi il fallait à tout prix que je sois à Rome. Moi, j'avais très, très envie de partir une année vivre en Italie, mais pour être tout à fait honnête, mon projet n'avait pas... un lien très fort avec Rome, et d'ailleurs je peux directement vous dévoiler la fin de l'histoire, qui est que je n'ai pas écrit le livre pour lequel j'étais parti. Ça fait aussi partie du jeu des résidences. Je pensais sincèrement le faire, j'avais tout un projet de fiction autour d'une vie de musicien, et j'avais vraiment fait pour le coup énormément de recherches avant de partir à Rome. J'imaginais déjà aller au conservatoire, rencontrer des profs, rencontrer des musiciens. Enfin, j'avais vraiment élaboré un vrai projet. C'était pas bidon. Mais le fait est que quand je suis arrivé là-bas, il y a eu quelques mois assez intenses autour de ce texte-là. Et puis en fait, on est arrivé en septembre et à Noël à peu près, mon projet s'est délité, s'est pulvérisé en plein vol, et j'ai écrit autre chose en fait. C'est pas du tout que j'ai arrêté d'écrire au cours de cette année-là, mais c'est aussi ce que permet une résidence comme celle-ci, où pendant un an vous êtes nourri et logé dans un cadre incroyable. Ça m'a permis aussi, après ces quatre années dont Françoise parlait, de travail important, de travail intellectuel intense sur les œuvres complètes de Gustave Roux, tout à coup, pendant un an, j'ai pu m'éloigner un peu de tout ça et puis réfléchir à ce que moi je voulais vraiment faire, à ce qui moi m'intéressait vraiment. Et c'est une année où j'ai été extrêmement poreux et où ça a un lien avec le livre que j'ai fini par écrire autour de Lou, mais c'est tout à coup, moi qui étais arrivé avec un projet un peu bétonné pour le coup, avec une sorte de marche à suivre et puis une structure de mon roman, je savais, j'avais une scène de départ que j'avais écrite, c'est sur la base de ces 20 pages que j'ai été accepté à l'Institut, donc il y a un premier chapitre que j'avais rédigé avant de partir, et puis j'avais la scène finale, je savais aussi comment ça se terminait, sur une scène d'ailleurs, un peu comme ici. Et donc, je suis parti de ce travail très méthodique et très cadré pour aboutir sur une sorte de flottement un peu effrayant au début, puis qui s'est révélé en fait tellement fécond qu'aujourd'hui, on est en 2026, ça fait 4 ans qu'on était à Rome, bientôt 4 ans qu'on est rentré, et en fait, je suis toujours en train de vivre sur ces choses qui me sont apparues au cours de cette résidence. Donc, ça a été absolument extraordinaire pour moi en termes de gestation, je ne sais pas quel mot employer, de maturation d'idées. Et voilà. Et c'est notamment pendant que je n'arrivais plus à écrire ce fichu roman que je me suis rendu compte, notamment que je vivais avec Lou, je le savais, mais que j'étais en fait très intriguée par elle. Et c'est vraiment parti de ça dès le début. Est-ce que tu veux que je lise la scène ?
Alors justement, j'aimerais que tu nous lises les pages de rencontres qui ouvrent le livre Les Bouches.
Parce que c'est en fait, dès le début, il y a eu quelque chose. Donc au tout début du livre, je raconte que j'arrive à Rome en septembre, et puis petit à petit, les autres résidents, résidentes arrivent, mais il en manque une. Il manque toujours Lou. Lou n'est pas là. Tu la connais, toi, cette Lou ? Un autre soir, sur le toit terrasse, on boit des bières, on mange des olives et des tarallini, et elle débarque enfin. Elle marche vers nous, lèvres très rouges, sourire immense. « Hi, I'm Lou. » C'est bien la fille de la photo. Je crois que c'est la première sculptrice que je vois de ma vie, et je ne pense même pas à observer ses mains. Elle lève les yeux et les doigts devant la bouche, lâche. « Oh là là, non, mais cette lumière !» Pardon, je l'imite mal. Si elle n'arrive que maintenant, c'est qu'elle était à Montreuil pour une exposition personnelle. Elle dit « solo show ». Elle sort son téléphone, ce sera plus simple de nous montrer. Une grande salle baignée par l'éclairage orange de réverbères industriels. Vapeur de sodium, nuit artificielle. Au centre, sur des socles, des pièces en céramique, mais mon regard est attiré par les soupiraux qui trouent les parois blanches. Barreaux tordus, écartés, traversés, des plans d'évasion, c'est leur titre, comme des fenêtres sur autre chose. Des barbelés cisaillés dessinent des formes organiques, des silhouettes humaines rehaussées par endroits d'un papillon. Lou raconte le pouvoir, le désir, l'émancipation par les mondes alternatifs. Mais ici, dit-elle en verrouillant son téléphone, elle va bosser sur autre chose. Elle s'est renseignée sur les fontaines de Rome, les bassins sculptés par Bernini ou les fascistes, mais aussi les nasoni sur lesquels on se penche pour boire. C'est une piste qu'elle suit depuis plusieurs années, la fontaine comme objet politique. Elle en a réalisé une qui recueille la rosée, une autre qui diffuse des brumes d'anxiolytiques. Pour sa nouvelle pièce, elle a quelques idées, des intuitions plutôt, rien de très clair, et c'est pour ça qu'elle est ici, pour voir et pour sentir. Ce que j'éprouve à ce moment-là est encore confus. Moi aussi, je suis là pour ça, voir et sentir. En y repensant, il m'apparaît que si, au lieu d'écrire, j'étais capable de façonner des objets, je voudrais moi aussi fabriquer des fontaines de mes mains. Et c'est une des choses qui m'a tout de suite vraiment intriguée, fascinée et rendue curieux à propos de Lou. Et d'ailleurs, en t'entendant parler, ça recrée la même chose. C'est cet aspect extrêmement concret, en fait. Ce rapport aux matières, aux objets, au réel, qui m'a vraiment frappé d'emblée et en fait qui s'est révélé tout au long de cette année hyper riche pour moi, en fait. Et donc, je me suis mis à côté de ce roman que j'essayais d'écrire, à prendre des notes sur Lou.
Et de ces notes sont nés, finalement, petit à petit, un livre qui, si j'ai bien compris, n'était pas commandé au départ, mais ton travail s'est mué en ce livre d'artiste que nous avons sous les yeux maintenant.
En fait, j'imaginais pas du tout que ça donnerait un livre, en tout cas pas si rapidement. J'ai toujours travaillé comme ça. Je suis fasciné par quelqu'un ou quelque chose. Gustave Roux, c'était exactement ça. J'en ai entendu parler pour la première fois en 2013, mais j'avais aucune idée que ça donnerait un livre. Lou, c'était pareil. C'est une sorte d'intuition, là aussi. Une sorte de curiosité. Comme j'ai très mauvaise mémoire, je prends des notes. Et en fait, les notes, c'est déjà du texte. Et donc, je me retrouve à un moment donné avec ce qui ressemble à un début de brouillon. Et puis, pour certaines choses, à force, ça finit par donner un livre. En l'occurrence, l'impulsion pour passer des notes et de la curiosité abstraite et générale à un livre, c'est qu'effectivement, les éditions Art et Fiction m'ont contacté à la fin de l'année à Rome. On était, je pense, en mai, c'était le mois avant qu'on parte. Et je reçois un mail de Stéphanie Lugon, qui est éditrice chez Art et Fiction, et qui me parle de cette collection qui s'appelle la collection Portrait, où, dont le principe est un auteur ou une autrice parle d'un ou une artiste. Et Stéphanie, que je connaissais pas ou peu, me demandait si j'étais intéressé par le principe de la collection. Puis elle me disait, on a pensé à certains artistes, certaines artistes sur qui tu pourrais écrire. Il y avait une liste de 5-6 noms. Et moi, là, pour le coup, je n'ai pas eu besoin de réfléchir très très longtemps. Je lui ai dit, je suis non seulement intéressé, mais j'ai déjà mon artiste. Et là, voilà, j'en ai parlé à Lou. Il m'a fallu un petit moment, j'étais très intimidé de lui demander ça. Et en fait, la commande est venue rencontrer un livre qui était déjà là. Après, il a fallu du temps. Après mon retour de Rome, j'ai laissé reposer tout ça. Ensuite, on pourra en parler aussi, mais c'est un livre que j'ai écrit presque avec Lou, notamment toute la scène de Carrare. Non, mais ça, c'est intéressant. Il y a toute une... Parce que donc, les bouches racontent vraiment ce qu'on est en train de vous dire, mais... Disons, la structure du livre, c'est notre année à Rome, c'est comment on s'est rencontrés. Mais il y a un chapitre, un épisode de cette année romaine que Lou a vécu et où je n'étais pas là, mais qui était très important pour sa recherche et qui est donc dans le livre, c'est son voyage à Carrare.
Alors j'aimerais justement que vous nous parliez de ce voyage à Carrare, parce que vous dites, enfin, Bruno dit pour vous à un moment donné que l'enseignement qu'on reçoit dans les écoles d'art, en fait, c'est un enseignement qui apprend à regarder, à voir, à classer, mais il n'y a pas le côté pratique le plus souvent. Hein. Et que vous, comme plasticienne, vous travaillez sur la matière et que précisément pendant ce séjour à Rome, vous avez ou vous vouliez travailler avec du marbre parce que le marbre fait partie de l'Italie et de Rome, que vous avez découvert vraiment Carrare et tout ce qui est autour, c'est-à-dire pas seulement le marbre qui finit en statue, mais ce que vous allez nous dire maintenant.
Ah, donc là, c'est une image de l'atelier. Donc là, c'est pas à Carrare, c'est à Rome, c'est dans l'Institut. C'était le dernier... Moi, j'avais la particularité d'avoir... tous les deux, d'ailleurs, nous avions les ateliers qui étaient les plus hauts dans la villa, donc avec ces fenêtres en demi-lune qui donnaient sur toute la ville de Rome. C'était magnifique. Donc là, on voit, c'était le tout début. Je suis en train de faire une petite, un modèle en terre pour une fontaine publique. Mais excuse-moi, Carrare.
C'est la bibliothèque de
Marne. Ah oui, voilà. Moi, je pratique la sculpture, mais on va dire que c'est pas. Je pratique la sculpture comme je pourrais pratiquer autre chose. Si demain j'ai envie de faire du dessin, je vais faire du dessin. D'ailleurs, de temps en temps, j'en fais. Je fais aussi. C'est rare que je fasse des images, mais ou en tout cas des installations. Voilà, c'est vrai que régulièrement, j'aime bien apprendre les techniques, qui est effectivement quelque chose qu'on nous apprend pas en école d'art. Alors, je dirais pas qu'il n'y a pas de côté pratique. Il y a vraiment des côtés pratiques. Théorique et pratique, on nous apprend dans l'enseignement artistique aujourd'hui. Mais disons que le côté pratique, ça va plutôt se faire par projet, ce qui d'ailleurs je pense est une très bonne pédagogie pour apprendre l'art, c'est-à-dire comment penser une exposition du début à sa réalisation, à sa médiation, etc. Mais par contre, il y a moins le côté, par exemple, on ne nous apprend pas à tailler la pierre, par exemple, ou à modeler de la terre, ou à souder. Voilà, si vous voulez l'apprendre, vous pouvez. Il y a des ateliers techniques. Et c'est vrai que c'était une des parties qui me plaisait en école. Mais ce n'est pas là-dessus que se base la pédagogie contemporaine de l'art. Du coup, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ne font pas d'ailleurs eux-mêmes leur sculpture, et c'est très bien. Chacun a ses techniques, ses processus de travail. C'est vrai que moi, je porte beaucoup d'attention à la facture, à comment les choses sont faites et en quoi elles sont faites, parce que pour moi, c'est ça qui fait sens aussi. Avec qui on travaille quand on fabrique une sculpture, par exemple, est-ce que je vais demander à une grande, je sais pas, une grande maison de production d'art, comme il y en a comme il y en a plein en Suisse, ou est-ce que je vais travailler avec un artisan, ou est-ce que je vais travailler seul et essayer d'arriver à le faire avec ce que je ne sais pas faire et d'essayer de le faire quand même. Voilà, donc c'est autant de processus qui renseignent aussi sur la manière. Tout ça pour dire que quand je suis arrivée à Rome, quand on se balade dans la ville, on est entouré de sculptures. La sculpture, elle est vraiment dans la rue, publique, partout, et notamment en pierre. Et je me suis dit, bon, voilà, moi, je fais de la sculpture, j'ai envie d'aller au cœur de la sculpture, et notamment de la sculpture figurative. Je vais essayer d'apprendre le marbre. Et du coup, j'ai pris des cours avec un tailleur de marbre, et je me suis mise aussi à récolter, en fait, différents marbres. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, là. Mais en gros, c'était une partie de ma table de travail que Bruno appréciait, qui était une petite matériothèque en fait des différents marbres que je collectais donc chez les marbriers, qui sont des chutes de leur travail et qui me permettaient juste d'essayer de comprendre quel marbre est de quelle couleur et vient d'où. Parce que quand on voit par exemple toutes ces au sol, tous ces dans les églises, toutes ces mosaïques avec différentes couleurs, etc. Il faut savoir que ça aussi, par exemple, pour moi, c'est aussi très, très politique, en fait, parce que ça prouve une puissance, un accès à des ressources très différenciées sur la Terre, puisque chaque carrière va donner un marbre d'une couleur. Et donc là, sur la table, il y a des pierres qui viennent à la fois d'Italie, mais aussi de Guatemala, l'onyx, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient, du sud de l'Italie jusqu'au nord, en France. Et ça donne en fait une idée d'un territoire en fait, sur lequel on a accès à de la ressource. Donc plus on a un sol, par exemple, d'un palais avec de nombreuses couleurs, plus on prouve aussi un accès, une maîtrise d'un large territoire. Donc tout ça, je l'apprends en fait, sur place. Et puis moi, je me mets à vouloir, donc en observant toutes ces fontaines, à observer de plus en plus les bouches, qui est vraiment l'endroit où l'eau est donnée, en fait, sort de l'infrastructure publique, de l'organisation collective, comme ça, pour donner l'eau potable, et sort, en fait, et devient accessible et visible. Et donc, je regarde ces bouches qui sont souvent... Il y en a qui sont abstraits, qui sont plus des tuyaux, etc. Mais à Rome, il y a beaucoup de mascarons comme ça, de pierres, qui sont plus ou moins humains, ou alors plus ou moins monstrueux, ou des lions, ou voilà, qui donnent de l'eau. Et là où l'eau se forme aussi tout un tas de petites mousses, de petites algues. Le développement de la vie qui se fait à l'échelle humaine de la ville autour de l'eau se fait également à l'échelle microscopique, on va dire, d'un petit biotope qui se fait autour de la bouche des fontaines. J'étais assez omnubilée par ces baisers mouillés. Et j'ai commencé à vouloir en sculpter, et donc je cherchais des marbres, et je cherchais des marbres rouges. Et en fait, je n'en trouvais pas. Il y avait un magasin qui vendait des outils dans lequel je me rendais régulièrement pour pouvoir acheter les outils de taille de marbre, et qui vendait aussi un petit peu de quelques pierres, et qui me dit, au tout début, je me souviens de la résidence, d'ailleurs, j'étais allée au tout début, il me dit, mais tu trouveras jamais que cazzo a Roma, non fa, nan. C'était vraiment un personnage, il s'appelait Stefano, et on en parle pas mal dans le livre, ça a été une rencontre assez étonnante et puissante. Et donc ce grand personnage qui fumait comme ça dans son magasin, qui était donc les murs recouverts de vieilles affiches de concours de taille de marbre des années 80, toutes jaunies par la fumée de cigarette, lui il était avec ses longs cheveux gris et un accent, et puis il parlait pas anglais, et moi je parlais pas italien aussi, j'étais en train d'apprendre, mais bon voilà, du coup on communiquait comme on pouvait. Et lui me dit, mais voilà, tu ne trouveras pas de marbre rouge à Rome, il faut que tu ailles à Carrare, j'y vais demain, viens. Ok. Et donc c'est comme ça que je suis allée à Carrare, et c'était une aventure. C'était une aventure qui a été très importante dans la résidence. Et du coup, c'est un des seuls moments qui, effectivement, était important dans le travail, dans la recherche, qui figure dans le livre, et où Bruno l'écrit selon ce que je t'en ai raconté. C'est de ça dont tu parlais. Et donc Carrare, ça, c'est fascinant parce que tout le monde connaît le nom de cette carrière, de cette ville, c'est d'ailleurs une ville dans les montagnes, et de cette carrière parce que y a c'est un nom qu'on associe vraiment à l'histoire de l'art, à l'histoire de l'architecture, parce que des sculpteurs célèbres l'ont utilisé pour faire leur marbre. Le marbre de Carrare, il a la particularité, on va voir, d'avoir une certaine translucidité à sa surface qui fait que la lumière peut traverser légèrement la pierre, un petit peu comme la peau humaine. Si on met une ampoule sur notre peau, on voit à travers et pourtant on n'est pas transparent non plus. Ben, c'est un peu comme ça qu'est le marbre de Carrare et c'est pour ça qu'il est très apprécié. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, Carrare, c'est une industrie qui est affreuse. C'est une industrie extrêmement polluante qui est dévastatrice à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois socialement, les gens n'ont pas de travail à Carrare puisque maintenant tout est fait, c'est des machines, tout est plus qu'industrialisé, c'est même robotisé, etc. Donc il y a encore des sculpteurs, mais c'est vraiment comme peu. L'extraction du marbre produit une sorte de poudre blanche très très fine qui se déverse dans toute la vallée, qui fait que tous les sols deviennent complètement infertiles, donc il n'y a plus d'agriculture possible. Comme le sol est hydrophobe, l'eau ne se déverse plus, du coup il y a des inondations régulièrement. Donc enfin c'est sans fin en fait, les violences et les effets de l'extraction du marbre. Et surtout, moi, ce qui m'a choquée, c'est que, en fait, c'est un marché qui est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de pierres de cette carrière qui sont extraites, mais qui sont directement pulvérisées pour faire du carbonate de calcium, qui est une poudre qui se fait à partir de matériaux qu'on peut trouver, qui n'est pas du tout rare sur la croûte terrestre. En fait, on en trouve partout. Du coup, on pourrait faire de ce carbonate de calcium ailleurs qu'au seul endroit où on voit ce marbre translucide assez fou. Eh bien, non. Mais du coup, voilà, il y a notamment une entreprise suisse qui pulvérise le marbre de Carrare pour en faire du carbonate de calcium. Et le carbonate de calcium, par exemple, en termes de tonnage, je crois que c'est une des plus grosses industries sur la Terre. C'est aussi un complément, un additif alimentaire. On en trouve beaucoup dans la nourriture transformée. C'est le E170, qui en fait est un épaississant. Donc, par exemple, dans certains yaourts ou dans le dentifrice, dans tous les dentifrices, il y a du carbonate de calcium. Donc voilà, on a cette image du marbre de Carrare et des carrières de Carrare comme étant vraiment liées à la sculpture et tout. C'est quand même une sorte de propagande auquel elles tiennent vraiment, mais bon, au final, c'est quand même surtout une industrie pour le papier, le plastique et les dentifrices, quoi. Ah oui. Et du coup, cela m'emmène à vous présenter une des pièces que j'ai présentées, que j'ai faites pendant ma résidence à l'Institut Suisse. C'est donc pas vraiment une fontaine, c'est plutôt un bassin, puisque l'eau y est stagnante. Là, c'est présenté au Muséum Souche, ici en Suisse. L'œuvre s'appelle Petrifying Basin, Kisses from the Nymphs. Donc, bassin pétrifiant, baiser des nymphes, baiser de nymphes. Et c'est donc un bassin qui est rempli d'eau, qui est saturé en carbonate de calcium, donc il y a cette pierre, cette poudre de carbonate de calcium qui là est spécialement issue des carrières de Carrare, ainsi que des bouches, et donc on peut voir peut-être à l'image suivante, voilà, des bouches qui viennent, qui sont à fleurs comme ça de l'eau, qui sont des bouches de différents marbres. Donc là, on a à droite, par exemple, elle est en marbre de Carrare avec des dents qui sont un marbre rose, je ne sais plus d'où il vient, et à gauche, c'est un travertin rouge qui vient d'Iran, d'ailleurs. Et avec des coquillages, certaines bouches sont en coquillage, et on voit cette poudre qui est déposée comme ça dans le fond du bassin. Donc c'était à la fois une œuvre qui me permettait de parler du pouvoir pétrifiant des nymphes, de ce rapport à la fois à la pierre et à l'eau qui, quand elle contient du calcaire, pétrifie les corps, dont je vous parlais tout à l'heure avec ce pouvoir qu'avaient les nymphes. Et en même temps, un rapport beaucoup plus prosaïque et économique que nous avons aujourd'hui avec les ressources naturelles. Et du coup, c'est des bouches qui me permettent de raconter ces histoires, et notamment l'histoire des carrières de Carrare, qui est une triste histoire.
Toi, Bruno, donc, tu as écrit cette histoire un peu comme un journal, c'est-à-dire qu'on sent passer le temps, vous entendez ? Oui, on sent passer le temps parce que quand tu reviens à une nouvelle séquence, tu dis c'était mars ou c'était avril, etc. Mais donc, ce que nous avons là dans la main avec les bouches, c'est quelque chose qui a été réécrit vers la fin d'après des notes.
Qui a même été écrit entièrement après mon départ de Rome. En fait, à Rome, tout ce que j'ai fait, c'est justement prendre des notes, rassembler de la matière. À la toute fin, j'ai su que ça allait donner un livre, mais vraiment, il faut aussi imaginer que déjà, je suis quand même, j'ai besoin d'une distance. J'aurais pas pu écrire ce livre à Rome, ça c'est sûr que non. J'ai vraiment besoin d'une distance temporelle surtout, mais même géographique. Et donc, au retour de Rome, déjà, il a fallu atterrir parce que vous avez vu la photo au début. Enfin, il faut rentrer de ça, quoi. Je me plains pas, hein. Je suis pas en train de dire ouin ouin, c'était affreux, mais il a fallu revenir à une vie un peu plus normale. Et donc, il a aussi fallu que tout ça se dépose. Moi, c'est une des choses que j'observe absolument tout le temps, et en particulier quand j'écris, j'ai besoin que du temps passe, parce que du coup j'oublie, et en fait ça fait une sorte de tri, et j'oublie beaucoup, donc ça fait un gros tri et ça fait des petits livres, c'est parfait. Et donc là, même pour cette histoire, il a fallu que l'expérience s'éloigne pour que je puisse faire non pas une sorte de, justement, de journal de résidence qui serait juste privé au fond, et qui serait intéressant pour Lou et les autres résidents et moi, quoi, pour passer de ce qui aurait pu être ça à un livre sur autre chose. Et il m'a fallu quand même du temps pour trouver la forme, qui finalement est assez simple, mais pour oser aller vers quelque chose finalement d'aussi proche du vécu, tout en essayant quand même de dire quelque chose de plus large sur quand même, enfin, c'est un grand mot, mais la création, disons. Et ça me semblait possible parce que justement j'observais quelqu'un d'autre, j'observais Lou au travail, et dans une vie, comme Lou l'a dit au tout début, une vie aussi quotidienne, une vie commune devant le frigo et en allant se promener dans la ville et en prenant le train, et voilà, aussi une vie quotidienne. Il y a un tout petit épisode que je raconte dans le livre où on part à Naples en décembre. On passe 3 jours à Naples avec Lou et 2 autres amis. Et quand on rentre à Rome, Lou pose sa main sur une colonne devant une église et elle dit « Ça fait du bien de retrouver le travertin ». Et c'est encore une de ces phrases où moi, je l'ai tout de suite noté. Là, on était en décembre, je ne savais pas que j'allais écrire ce livre. Mais pour moi, le « Ça fait du bien de retrouver le travertin », c'était encore une fois un exemple de cette pensée tellement concrète, de cette vision du monde tellement précise, là où moi j'ai l'impression de voir, je vois des églises, je vois des bâtiments, j'avais l'impression tout à coup d'être extrêmement brouillon, flou, alors que le regard de Lou était tellement précis et tellement affûté, notamment sur ces questions-là. Et donc tout ça a pris du temps, voilà, que toutes les, tout, toute la forme du livre, mais aussi ce que je voulais y dire, puisse se formuler. Tout ça a pris du temps. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis retourné à Rome quelques mois après la fin de la résidence, puisque Lou, on en parlera tout à l'heure, mais vernissait une pièce, une autre fontaine. Et donc je suis retourné à Rome, et là je me rappelle notamment d'une session dans le jardin où tu m'as re-raconté Carrare. Et voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je disais que Lou, elle a été vraiment... Je l'ai intégrée dans mon processus. Et là aussi, ça me changeait, parce que jusque-là, j'avais écrit... il m'était déjà arrivé d'écrire sur des personnes réelles, mais j'avais écrit que sur des morts. Et ça change vraiment beaucoup d'écrire sur des vivants. C'est super, d'ailleurs, j'ai adoré l'expérience. Mais ça pose d'autres questions. Quand j'écrivais sur Gustave et Madeleine Roux, j'avais très, très peur de trahir leur mémoire. Mais dans le pire des cas, je trahissais leur mémoire. Et donc, je ne les blessais pas, eux. Je n'allais pas leur porter préjudice pour le reste de leur vie. Et pour cause. Alors que Lou, je me disais, mince, en fait, elle a 30 ans, elle est au début de sa carrière, suivant ce que je raconte. Bien sûr que ce n'est pas un livre qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, donc les dommages auraient été quand même modérés, mais je n'avais pas envie de blesser ou de donner une image totalement fausse. Et c'est aussi pour ça que je me suis mis en scène dans le livre. C'est vraiment un livre qui est mon point de vue subjectif sur une autre personne, c'est pas la vérité sur Lou.
Qu'est-ce que ça vous a fait, Lou, quand il vous a dit qu'il allait écrire sur vous? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous lui avez demandé de relire? Est-ce que vous avez dû préciser certaines choses?
Moi, déjà, j'ai été extrêmement flattée que quelqu'un ait envie de poser son regard et surtout celui de Bruno, parce que moi j'avais lu ses livres et puis on était devenus très proches, on est devenus amis aussi en fait pendant cette résidence quand même. Le livre il raconte aussi ça, il y a une rencontre artistique, une rencontre professionnelle et il y a aussi vraiment une rencontre amicale. Du coup j'ai eu confiance tout de suite, j'ai pas du tout eu peur, au contraire j'ai été hyper emballée par cette idée. Ce qui était excitant pour moi, c'était aussi le fait de découvrir un texte qui était écrit par quelqu'un qui ne venait pas de l'art contemporain, on va dire. Parce que des textes qui sont écrits sur mon travail, il y en a un certain nombre, mais ça vient surtout de personnes qui sont de ce milieu-là, c'est un certain ton, c'est toujours un point de vue critique, théorique ou descriptif, voilà, de curateur, de théoricien, de critique, de journaliste. Mais jamais d'un écrivain, de quelqu'un qui travaille la littérature et surtout d'un point de vue qui est... il y a aussi des personnes qui écrivent sur mon travail dans le milieu de l'art d'un point de vue situé, mais là, il y avait vraiment cette histoire-là, l'idée d'avoir un jeu puissant qui est le sien, qui regarde un autre travail, et donc une sensibilité qui en regarde un autre, un travail en train de se faire. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, qu'il y ait cette rencontre comme ça, et qu'au final, ce soit une histoire aussi, tout simplement parce que c'est un livre qui se lit très, très bien, très, j'ai envie de dire, je sais pas, est-ce que c'est négatif si on dit facilement? Non, c'est pas,
non,
négatif. On rentre dans une histoire comme ça, où on rencontre le travail à travers une histoire, avec un lieu, des dates, etc. Alors que souvent, sur la plupart des textes théoriques sur mon travail, ça n'a rien à voir, c'est pas des histoires. Donc non, moi je trouve que j'ai adoré.
Si vous jetez un regard rétrospectif, dans le fond, sur ce séjour, alors vous venez de dire un certain nombre de choses, mais par rapport au livre, mais est-ce que ça a été déterminant pour différents aspects de votre vie?
Je commence?
Oui.
Pour moi, absolument. C'est une résidence qui a été... je crois qu'aujourd'hui encore, je peux dire que c'est la plus belle année de ma vie. Ça a été une expérience très profonde et très enrichissante à tous les niveaux. Humain, avec des vraies rencontres humaines qui comptent encore dans ma vie de façon très importante aujourd'hui. Professionnellement, j'ai aussi eu des opportunités. J'ai commencé à travailler avec une galerie à Rome, etc. Donc ça a vraiment quand même changé aussi le cours de la visibilité de mon travail, on va dire, et d'une façon plus intime de relation à mon travail, à la recherche, vraiment de façon artistique, les thèmes que j'ai développés là-bas, que ce soit par exemple voilà, la taille du marbre ou mes connaissances sur les fontaines, tout ça, ça nourrit encore fortement mon travail aujourd'hui. Donc je me sens encore portée par cette résidence qui est donc il y a 4-5 ans. C'était vraiment une expérience tellement intense qu'elle, ouais, qu'elle me porte encore aujourd'hui, je crois, fortement.
Est-ce que vous travaillez encore sur des bouches ?
De temps en temps, oui. Ouais. Ouais, ouais, j'ai continué à travailler. C'est vrai que c'est de la... Est-ce que j'avais fait des bouches avant, je crois ? Si, j'avais fait un petit peu déjà avant. Mais il faut que je me renouvelle quand même.
Bruno, avant que tu fasses le bilan, je te demanderais peut-être de lire la dernière page, qui est ce retour après coup.
Donc c'est au sujet de cette dernière fontaine dont je vous parlais, qui est là en cours de... En cours de fabrication, de création, dans la baignoire de Loup. C'est ta baignoire, ça ? Ah non, c'est le sol de l'atelier. Ouais. Et à la fin, ça donne ça. Octobre. C'est la première fois que je reviens à Rome. J'ai la gorge serrée en voyant la façade de la maison derrière son mur d'enceinte. Je monte les marches de la dépendance et entre dans le jardin. L'impression de n'être jamais parti, et pourtant ma vie ici me semble déjà irréelle, mais je le savais depuis le premier jour, c'était une autre planète. Je lève la tête vers les arbres, repère les perruches, et c'est la voix de Lou qui m'accueille, Lou qui crie mon nom depuis la grande loggia où s'active toute l'équipe. Sa fontaine est là-haut et a désormais un titre, Spit Kiss from Earth, crachat, bon baiser de la terre. Un cercle parfait, blanc cassé, qui épouse le sol en mosaïque. Au centre, comme en lévitation à quelques centimètres au-dessus du fond du bassin, l'énorme morceau de tuf ramené du Lazio ou de Toscane, désormais serti de pierreries. Agate, améthyste, malachite, serpentine, perles de verre et perles d'huître, des os aussi fixés par des clous. Au sommet, une bouche en marbre de Carrare, la première bouche en marbre de Loup. La nymphe est en vie, son chant liquide ruisselle doucement et irrigue toutes les matières qui se modifient imperceptiblement. Même s'il a fait une chaleur atroce cet été, les mousses ont tenu bon. Et si elle en avait le temps, la pièce pourrait évoluer à l'infini. Mais Lou me dit qu'après l'exposition, il faudra l'entreposer quelque part et la pierre va mourir, c'est sûr, c'est comme ça. Le soir du vernissage, les gens défilent devant la fontaine. Lou invite les personnes qui le souhaitent à embrasser la nymphe. Quand c'est mon tour, je m'agenouille, intimidée. Une main posée sur le rebord, l'autre sur la pierre, je me penche sur la bouche, mais sans toucher le marbre. C'est l'eau seule que j'embrasse.
Voilà ces deux œuvres différentes, de matières différentes, de manières différentes, qui se trouveraient unies en un petit volume. On ne voudrait plus développer, mais ça ne serait plus seulement un portrait, ça serait ce que vous dites d'articles plus professionnels peut-être. Et c'est bien que ce soit ce portrait, cette aventure humaine. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose encore avant que nous passions la parole au public. Non, ils n'ont pas tout dit, mais c'est à vous maintenant de susciter d'autres paroles par leur bouche. On pourrait infiniment jouer là-dessus. Je remercie beaucoup, beaucoup Lou et Bruno de s'être prêté à ce jeu. Est-ce que la première fois que vous travaillez, enfin que vous parlez ensemble comme ça ?
On a fait quelques émissions de radio, je ne sais plus.
Il n'y a pas eu souvent.
Bon, oui. En tout cas, on voit que ce que vous avez en commun s'exprime très facilement. Et je passe la parole au public maintenant, à ceux qui voudraient prolonger. Je vois déjà une main qui se lève.
Une question pour Bruno. Qu'est-ce qui fascine Bruno dans la bouche ? Parce que le premier chapitre, la première chose qu'il voit dans Maud, c'est sa bouche. Il dit une bouche rouge. Est-ce que c'est à partir de cette bouche rouge qu'il y a une fascination pour ce travail-là ?
Non. Là, je dois dire la vérité, non. C'est que le... Enfin, cela dit, c'était quand même une des marques de fabrique de Lou, ce rouge à lèvres, qui fait que la bouche est très présente. Et puis, c'est une des choses, effectivement, avec laquelle elle est arrivée. On n'en a pas parlé, mais son atelier était vraiment... Enfin, peut-être que je réinvente, mais non, il y avait des bouches partout dans ton atelier. Il y avait des bouches à différents stades d'avancement et des bouches de toutes formes, matières, couleurs. Et donc, c'était un objet ou une partie du corps très présente. Mais cela dit, le livre ne s'est pas toujours appelé comme ça. Il y avait des titres de travail qui n'étaient pas très bons. Et c'est petit à petit, là aussi, en fait, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu publier le journal de ma résidence. Et donc, quand j'ai cherché une forme, après, enfin, c'est comme ça que je travaille, en tout cas, quand j'écris n'importe quel texte, au fond, je l'ai écrit comme mes autres livres. C'est-à-dire que je cherche aussi des motifs. Et donc, effectivement, à l'arrivée de Lou, la bouche et les mains que je n'ai pas regardées, ça me semblait deux éléments aussi littérairement intéressants. Mais ça, ce n'est pas exactement comme ça, évidemment, que j'ai vécu les choses.
J'aurais une question aussi à poser. Vous avez travaillé avec d'autres personnes aussi.
Oui, comme Bruno le mentionnait, il y a donc des résidents qui sont des résidents qui sont des chercheurs et des chercheuses qui sont plutôt en phase d'écriture de thèse ou de post-doc, et j'ai fait une collaboration avec donc un chercheur en histoire de l'architecture et de l'urbanisme qui s'appelle Ilias Azouzi, et on a développé un projet qui était plus centré sur les fontaines fascistes de Rome. Lui, il était en train d'écrire, de finaliser sa thèse sur, on va dire, comment les stratégies urbanistiques du fascisme en ville, comment ça prend forme, quelle forme ça prend, en fait, une ville construite par un gouvernement fasciste. Et moi, j'étais en train de faire ma recherche sur les fontaines comme objet politique et quelles sont les idéologies qui sont portés par ces fontaines, et du coup facilement aussi on s'est dit, ah bah, génial, viens on prend un exemple concret, elles sont où les fontaines fascistes, elles ressemblent à quoi, quand est-ce qu'elles ont été faites, quels ont été les architectes et quels étaient le projet de ces architectes. Et donc on a sélectionné le nom de l'architecte Pietro Lombardi, merci Pietro Lombardi, waouh, qui était donc un architecte qui a répondu à un appel à projet de Mussolini au tout début de l'ère fasciste à Rome, et qui a développé un projet de 7 fontaines qui représentent, on va dire, qui reprennent les canons et les excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Par exemple, des boulets, des colonnes, comment on pourrait dire, le vocabulaire qui était développé pendant la Rome antique, en fait, qui est repris. Et du coup, on interprétait ça aussi vraiment comme voilà, la revendication de la continuité d'un empire. Donc de l'Empire romain jusqu'à l'Empire fasciste, et donc de la suprématie de ce peuple sur les autres, etc. Donc on essayait de comprendre un petit peu quels étaient les mécanismes, par quels moyens en fait l'idéologie passait via ces fontaines. Donc ça a été notre interprétation. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était de produire un objet, un outil qui s'appelle Public Plug for Fascist Fontaine, qui est un outil qui permet de boucher ces fontaines, qui est un outil en silicone, une sorte de plug en silicone qu'on a distribué, qu'on a produit à 200 exemplaires, je crois, en silicone, et qu'on a distribué gratuitement lors d'un événement à l'Institut, lors d'un vernissage, et qui permettait du coup voilà, de boucher ce flux, ou en tout cas de donner la possibilité de se poser la question, en fait. Est-ce que j'ai envie de boucher ce flux ou pas? Pourquoi? Voilà, c'était un petit peu une traduction aussi des questions qui se posent aujourd'hui par rapport à la statuaire coloniale en France. Qu'est-ce qu'on fait de nos statues ? Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine culturel en fait, qui fabrique nos villes et qui sont encore au centre de nos places aujourd'hui, et comment on se place, tout ça. C'est des questions qui étaient très difficiles aussi, on ne peut pas y répondre vraiment, il n'y a pas une solution évidemment, surtout en tant qu'artiste suisse en résidence pendant un an dans une ville, bien loin de moi l'idée de croire que je peux résoudre des questions aussi difficiles, c'était plutôt apporter un outil qui est un outil critique, un outil qui nous permet de penser.
Merci. Une question pour Lou encore. Est-ce qu'il y a eu une classification des bouches, c'est-à-dire tel type de bouche ? On parlait des bouches fascistes, mais est-ce qu'il y a eu une classification ?
C'est une longue entreprise. Je ne prendrai pas le risque d'une telle entreprise.
Je veux dire pour votre travail, pour avancer dans votre travail, est-ce que vous êtes parti, j'imagine, de Fontaine Antique, en remontant dans le temps sans doute, ou en redescendant dans le temps, pour arriver à votre propre projet ? Parce que le baiser mouillé des nymphes, ben ça nous ramène à l'Antiquité, rien à voir avec le fascisme. Ce type de personnages, les nymphes.
Moi, je suis beaucoup moins organisée que ça. J'ai observé ces bouches, elles m'ont fascinée, et je les ai traduites avec des matériaux qui me semblaient faire sens. Donc, par exemple, de mixer différentes pierres avec des porosités différentes, c'est-à-dire selon la pierre, si elle est poreuse ou pas, elle va plus ou moins garder l'eau, retenir l'eau, ou au contraire, l'eau glisse complètement sur une surface polie de marbre, par exemple. On a nous-mêmes des pierres, des petites sortes de pierres dans la bouche avec ses dents, et donc j'ai aussi beaucoup travaillé la dentition. Voilà, c'était plus des questions de matière, de forme, que vraiment une classification des types de bouches, ni historique, ni... j'entends qu'on me souffle des réponses, mais je ne les ai pas entendues. Mince. Symbolique, parfait. Merci. Donc non, il n'y a pas de classification. J'aime bien qu'elle reste aussi très polysémique. Il y a des bouches de certaines de mes sculptures qui sont... qu'on aimerait embrasser, je dirais, qui sont assez désirables, et puis d'autres qui sont très repoussantes, avec des escargots énormes à la place des bouches, des dents qui sortent, des langues trop épaisses pour la bouche. Enfin, je pars aussi un petit peu dans des considérations à la fois formelles et un peu fictionnelles à partir de ces bouches.
Merci pour votre échange intéressant. Et j'aurais aimé savoir si vos deux approches, Bruno qui approche le rapport aux matières et Lou qui voit le regard de l'écrivain prendre forme dans son langage, est-ce que ça a changé quelque chose dans vos pratiques respectives ?
En tout cas, moi, ça... a changé mon regard. Je ne sais pas si ça a changé mon écriture, mais sans doute que du coup, oui, puisque les deux sont quand même très liés. Et je pense que... Mais il y a le travail sur ce livre et le travail de Lou, mais il y a aussi le fait que l'art, et là vraiment c'est ce gros mot avec un grand A effrayant, ça a très 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 longtemps... était une chose qui me semblait pour moi inaccessible. C'était pas du tout dans mon éducation, dans mes connaissances, ni même dans mes intérêts. L'art, vraiment, je prends absolument tout. De l'histoire de l'art, de la préhistoire à l'art contemporain, c'était une espèce de continent sur lequel j'osais pas m'aventurer. Comme d'ailleurs la poésie avant de connaître Gustave Roux. C'est un peu ces grands continents intimidants pour lesquels je ne me sentais pas armé. Et le fait, pendant un an, de vivre, encore une fois, cette vie quotidienne très normale, en quelque sorte, hein, avec beaucoup de guillemets, mais disons cette vie quotidienne, en tout cas, aux côtés d'artistes, et notamment de Lou, ça m'a donné, c'est aussi ce que j'essaie de montrer dans le livre, ça m'a permis d'approcher l'art autrement, de comprendre que cette espèce de continent effrayant, c'était pas du tout un continent effrayant, et c'était en fait une approche du monde, un certain regard, une certaine connaissance des choses. Et ça, oui, ça clairement, ça a totalement changé. Et d'ailleurs, depuis mon retour de Rome, il se trouve que vraiment, dans mes habitudes, je vais beaucoup plus voir des expos et je me sens infiniment moins intimidée grâce à ce compagnonnage, en fait. Donc ça a vraiment changé quelque chose. Et donc, forcément, par ricochet dans mon écriture, c'est sûr.
Et Lou ? Moi, je peux rien rajouter après ça, c'est trop beau. Bah, c'est vrai, si t'arrives à... Je trouve ça trop... Non, voilà, j'ai rien à rajouter. Qu'une expérience telle qu'écrire un livre et rencontrer quelqu'un te permette d'accéder à un truc que tu t'interdisais auparavant, je trouve ça... Enfin, c'est génial.
Mais dans votre travail à vous, il y a des répercussions après ce compagnonnage ?
J'en suis sûre et en même temps j'aurais du mal à l'exprimer. Je pense qu'en tout cas il y a des gens qui n'avaient pas du tout accès à mon travail qui ont eu accès à mon travail grâce à ce livre d'une façon infiniment sensible et juste. Donc je ne saurais pas répondre à votre question correctement, désolée.
J'ai envie de rajouter quelque chose à madame qui vient de parler. Et la littérature pour vous ? Parce que vous n'aviez pas lu Sénèque.
Et finalement, je l'ai lu.
Non, mais avant, je dis bien, il y a eu quand même avant Rome des latines. Mm-hmm. Et je me demandais si le rapport à la littérature, il parlait du rapport à l'art. Pour ouais. vous, si vous voulez vous mettre en parallèle, c'est le rapport à la littérature. Alors, je ne sais pas si c'est trop général ou si c'est... C'est moi qui fantasme.
Disons que moi, j'avais déjà un rapport assez fort avec la littérature, avec les livres. C'est quelque chose que ma mère m'a transcrit. Donc, je travaille déjà, alors pas à partir de livres, mais accompagnée par des livres. En résidence, on a beaucoup partagé nos lectures. Bruno m'a fait lire de nombreux livres, je lui ai fait lire des livres, on en discutait. Ça faisait aussi partie de la richesse de notre relation. On parlait plus de livres que d'œuvres d'art, d'ailleurs.
Je me rappelle quand tu nous as lu Ovid dans la cuisine de la résidence un soir. Voilà.
Je me souviens pas.
Ça m'a marqué. Non, mais oui, c'est vrai, à Barça, on a beaucoup, beaucoup parlé de livres. Et ça a aussi permis, je pense, cette approche dont je viens de parler, mais ce décloisonnement, c'est bien aussi, entre les pratiques. C'est qu'en fait, toi, tu étais déjà bilingue, entre guillemets, de ces deux choses. Tu n'étais pas intimidée par la littérature.
Et même, il me semble qu'on avait un intérêt particulier cette année pour les autofictions et pour les livres écrits justement à partir d'un jeu. Avec un ou une écrivain, on a lu beaucoup d'autrices plutôt, je crois, il me semble, cette année-là, et on partageait cet intérêt pour des personnes qui prennent vraiment place dans le monde avec un jeu qui est celui de l'énonciation, qui s'autorise à plein de trucs dans la vie. Je ne sais plus, qu'est-ce qu'on avait lu, Ali Arnaud, ouais.
Déborah Lévy beaucoup. Et en fait, c'est avec cette question, d'ailleurs, qui m'a aidé ensuite à écrire le livre, de comment oser dire « je » sans mettre trop de masques. En gros, le « je » dans ce livre, c'est moi. Mais justement, sans être dans une entreprise nombriliste et donner mon journal intime, mais au contraire, dire « je » pour mieux parler des autres. En fait. Et ça, c'est vrai que ces lectures et ces discussions m'ont beaucoup aidé.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose pendant que j'ai le micro ? Je m'intéressais à votre poudre de Carrare et je connais un artiste qui travaille dans une vallée du Tessin. Ça doit être le Val Maggia, très haut dans la montagne. Il y a du marbre. Il travaille à côté. Justement, il travaille le marbre. Et puis, je me suis demandé si dans cette vallée, il y avait autant de poussière qui détruisait la nature. Parce que, est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous connaissez cette carrière de marbre au Tessin ? Mais je ne saurais plus dire où ni comment, parce que j'ai des problèmes de mémoire.
Alors, je ne sais plus exactement. Je sais que dans le Tessin, c'est le seul endroit de Suisse où il y a effectivement plusieurs carrières de marbre. Il y en a plusieurs qui sont fermés aujourd'hui. Il y a un marbre blanc qui ressemble quasi, qui s'appelle le Marmo Cristallina, qui ressemble de près, à s'y méprendre, à celui de Carrare. C'est celui qui a beaucoup de succès. Et il y a d'autres marbres que moi je trouve beaucoup plus intéressants, qui sont des marbres polychromes, qui sont un peu plus bas dans la montagne et qui sont vers Locarno. Je ne me rappelle plus exactement des noms. Mais donc, les marbres polychromes, ils ont moins... On les exploite moins et les carrières ferment parce que aujourd'hui les gens veulent des salles de bain en marbre blanc, en fait, en gros, et des cuisines
en granit.
Voilà, en tout cas qui soient pas polychrome. Et en Suisse, il y a beaucoup de carrières de marbre polychrome, mais il y a également une carrière de marbre un peu blanc, ben, avec quelques veines. Je ne sais pas quel est l'impact écologique de ces carrières-là en particulier. Je n'ai pas étudié, il faudrait que j'aille faire une petite résidence là-bas.
Moi, j'ai été impressionnée au départ à la présentation en disant nous avons une artiste. Nous avons une artiste et puis nous avons un écrivain. Et la question s'est posée tout au long de la discussion parce que pour moi, l'écrivain doit avoir quelque chose d'artiste en lui ou doit être à quelque part un artiste. Dès lors, quand vous me racontez que vous êtes parti avec un projet tout ficelé et puis que vous êtes sorti de ce projet et vous avez observé la réalité, est-ce que vous êtes à ce moment-là devenu ce vrai créateur qui est un artiste?
Oui. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'était une bonne leçon pour moi. Une bonne leçon d'écriture, de se dire, OK, en fait, je peux pas produire sur commande. Même la commande, au fond, elle n'a fonctionné que parce que, comme je le disais, le désir préexistait à la commande. Et donc, effectivement, mon projet ficelé, il s'est délité. Et ce qui a pu se réaliser, c'est autre chose. Et cette autre chose, il a fallu le chercher. Et effectivement, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, le livre que j'ai écrit à Rome, finalement, s'appelle Tortue. Et c'est un drôle de bouquin qui n'est pas un roman, qui n'est pas un récit, ou c'est une sorte de récit, mais fragmentaire, je ne sais même pas comment le nommer. Et c'est en fait une forme que j'ai beaucoup cherchée. Et précisément, en fait, j'ai pu écrire ce livre parce que j'ai eu tous ces mois à disposition. Et tout ce temps et tout ce luxe de pouvoir me tromper, faire des détours avant de trouver, encore une fois, comme pour ce livre, la forme qui convenait à ce que je voulais dire. Alors que le roman que j'étais parti pour écrire, La fleur au fusil, j'avais une forme préimposée. En fait, je pensais voilà à quoi ça devait ressembler et du coup, ça n'a absolument pas fonctionné. Je pense que ça, j'espère que c'est une leçon que j'ai retenue. Ce qui explique aussi que ça fait maintenant de nouveau très longtemps que je cherche, en fait. Je sais que je dois accepter d'avancer vraiment dans le brouillard et on verra bien si ça mène à l'ouverture sur le lac ou au précipice. Ne finissons pas là-dessus, putain, une autre question. Si ça a changé définitivement, oui, je pense que oui. Non, vraiment, je pense que ça m'a donné une, comme on le disait tout à l'heure, mais ça a changé mon regard et mon approche aussi du, pas vraiment de l'écriture, mais de tout ce qui y mène. Oui, ça oui, c'est sûr.
Merci, vous avez parlé, et c'était passionnant, merci, de vos deux arts, je dirais. Et je pense à la musique, Les Fontaines de Rome, de Respighi. Je suppose que vous les connaissez. Je viens de chercher parce que je ne me souvenais plus de la date. C'est un poème symphonique composé par Ottorino Respighi dans les années 1916-17 sur les fontaines de Rome. Je me demandais si peut-être vous aviez eu connaissance de cette musique-là. Ça n'a rien à voir, vous me direz peut-être, mais non. Je vous le signale à tout hasard.
Ouais, j'irai écouter.
Oui.
Je ne connaissais pas du tout, mais connaissez-vous des fontaines qui font de la musique, parce que je ne connaissais pas non plus. Et donc, à la Villa d'Este, qui est à Tivoli,
oui.
C'est à une trentaine de minutes en train de Rome, il y a un jardin magnifique avec plus de 200, 300 fontaines, je ne sais plus, c'est dingue. Il faut absolument aller à Tivoli si vous allez à Rome, visiter ce jardin. Oui. Et parmi ces fontaines, il y en a qui, grâce à un système très ingénieux que je serais bien loin de pouvoir vous expliquer, mais avec des... C'est un jardin qui est tout en pente, comme ça, avec des jeux de pression hydraulique et aussi de tubes vides, etc. Ça fait comme une sorte d'orgue.
Chant, oui.
Voilà, d'orgue, pas naturel puisqu'il est fabriqué, mais qui a l'air d'une sorte de cascade et qui, en fait, fait de la musique, qui fait des notes. Assez fou aussi.
Merci, je ne connaissais pas. Merci.
Merci. Merci pour votre présentation, fort intéressant. Moi, je suis interpellé par le mot bouche. Pour moi, une bouche, c'est une entrée dans quelque chose. Puis là, tout d'un coup, dans les fontaines, c'est une sortie. Comment
génial. Vous voyez ça ? J'adore. C'est exactement ça qui me donne envie de faire des sculptures. La fontaine, elle attend quand même aussi d'être la bouche de la fontaine, d'être embrassée pour être bue. Du coup, il y a quand même une histoire d'échange. Mais effectivement, ça rentre, ça sort, et il y a ce flux entre l'infrastructure urbaine, hydraulique, immense, comme ça, de ces kilomètres de réseaux souterrains, en tuyaux de plomb, puis de tuiles, puis d'acier, puis qui doivent quand même aussi laisser quelques particules de matière, et qui finalement arrivent à la fontaine, qui rentrent dans un second système, le système du corps humain, lorsqu'il est bu. Et je m'imagine comme ça, c'est cette eau qui passe d'un système à un autre et qui en est changée. Ça me parle beaucoup.
Si vous n'avez plus de questions, nous allons remercier encore une fois Lou et Bruno de leur présence et surtout de à la fois leur regard croisé et de leurs mots croisés. Et je ne voudrais pas terminer sans vous signaler la prochaine conférence qui a un titre beaucoup. L'insidieuse fragmentation géopolitique du commerce mondial. Alors ce sera une autre sphère, ce seront d'autres échanges, mais je crois que ceux que nous avons eus aujourd'hui vont en tout cas nous illuminer pendant de longues journées. Merci et bon retour chez vous.
Merci beaucoup.